Alors donc, si je passe maintenant au statut des artistes, pour terminer mon propos, il y a des choses qui sont à dire et qui ont un rapport avec la vie musicale française. Je vais prendre quatre cas. Un cas collectif, je parlais des esclaves globalement parce qu'on ne connaît pas les individus, on connaît juste les noms, les prénoms, et puis ensuite on ne sait pas plus, donc on ne peut pas aller très loin. Et je prendrai trois individus que l'on connaît beaucoup plus précisément. Le premier dont je parlerai, c'est Piffé. C'est un musicien qui est connu depuis fort longtemps, depuis les années 20, par les musicologues. Un musicologue français qui s'appelle Lalaurency a fait un travail sur les violonistes de cette époque et il a parlé de Piffé. Et pour vous dire à quel point les gens étaient peu intéressés par les colonies, eh bien, Lalaurency mentionne que Piffé est mort à Port-au-Prince et ça n'a intrigué personne. Personne n'a jamais été regardé pourquoi, qui était Piffé, où était-il, etc. Dans une colonie, qu'est-ce qu'il fait dans une colonie? Et voilà. Donc, depuis les années 20, Piffé est mentionné, et puis voilà, c'est tout, on s'en contente, ça suffit. Alors, Piffé, en fait, il fait une double carrière. Il fait une carrière en France, il est né à Amiens, il est né à Amiens en 1734, c'est comme souvent un musicien qui est fils et petit-fils de musiciens, ils sont tous violonistes dans la famille. Il est membre des 24 violons du roi, une phalange prestigieuse. Il est soliste au concert spirituel, il est musicien à l'opéra, et puis à un moment, apparemment, les choses se dérèglent. Et c'est là que c'est intéressant pour la musicologie, c'est qu'on se rend compte qu'à partir d'un certain moment, certains musiciens ont envie de voir ailleurs parce que les cadres sont trop rigides. La France est extrêmement rigide, déjà à cette époque, et la musique, elle est dirigée d'une main de fer par les autorités parisiennes. Ça date de Lully. Si on n'est pas à Paris et si on n'est pas dans le moule exact que vous proposent les institutions, vous n'avez rien à faire là-dedans. Donc on voit un certain nombre de musiciens qui quittent la France, il y a beaucoup de départs, et des musiciens aussi qui quittent le circuit commercial. Et curieusement, il y a un groupe, une société qui va accueillir les musiciens à cette époque-là, c'est les francs-maçons. Et dans la franc-maçonnerie à l'époque, il y a énormément de musiciens. Il est plus facile de faire le compte de ceux qui ne sont pas francs-maçons que de ceux qui sont francs-maçons. Parce que dans la franc-maçonnerie, on va laisser les musiciens travailler et présenter leur musique. Piffé est franc-maçon aussi. Et Piffé donc quitte la France pour aller d'abord à Londres, et puis ensuite il va à Saint-Domingue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur Piffé, donc François Barthélemy Piffé, qui a beaucoup de titres, eh bien il n'arrive pas à se faire une place au soleil à Saint-Domingue. Il cherche à avoir le poste de chef d'orchestre au Cap, il ne l'a pas. Il cherche à avoir le poste de chef d'orchestre à Port-au-Prince, il ne l'a pas. Il cherche encore ailleurs, il n'y arrive pas. Tout ça pour montrer qu'il y a une émulation et que ce n'est pas si simple. Et puis il y a aussi cette deuxième chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir que finalement à Saint-Domingue, les titres ont beaucoup moins d'utilité, beaucoup moins d'importance qu'en France. Alors il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a des artistes que l'on voit faire l'aller-retour deux fois. Il y a un artiste, par exemple Marignan, qui vient de Paris, qui va à Saint-Domingue, qui repart, qu'on retrouve à Lyon, qui repart à Saint-Domingue, qui repart, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent. Et pour Saint-Domingue, l'essentiel des artistes viennent de France. Et ça pose un gros problème parce que finalement, ce va-et-vient a stérilisé complètement toute vie locale. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes élevés localement. Pas beaucoup d'artistes qui se soient développés localement.